Frédéric Bastiat, économiste politique au XVIIe siècle. Je cite « Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. » Voilà, bon courage à tous.
Bonjour, je m'appelle Arnaud Montebourg et je mets dos à dos les deux impétrants. Et j'approuve cela.
Il paraît que Martine Aubry serait plus à gauche que François Hollande. Bon, écoutez, franchement, c'est ridicule. Écoutez, franchement.
Bonjour Daniel. Bah, pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Bah, ton introduction ironique sur tout le monde à gauche, tout le monde pour Montebourg... Tout le monde et ainsi de suite, enfin, ton baratin, là, ça m'a pas plu. C'est la première fois que je suis en désaccord, on peut se tromper, t'as pu te tromper, mais moi je suis un vieux militant et je me suis senti touché. Alors, t'as pas le droit de parler comme ça, je regrette. T'as le droit de parler, c'est vrai, mais pas comme ça. Pour une fois qu'il y a un mouvement, on va dire, de jeunesse accompagné avec les vieux, ça faisait depuis très longtemps que c'était pas arrivé. Faut pas critiquer comme ça. Voilà. Salut, et puis essaye de rétablir l'équilibre, parce que là, c'est pas bon, là. C'est pas bon du tout. Salut, c'était Jean-Paul de l'Essonne.
Oh putain, j'arrive encore. Il faut que je vous raconte ça. Tellement ça m'a fait rire. Au cas où vous l'auriez pas entendu. C'est au jeu des 1000 euros d'aujourd'hui, de ce mercredi, là. La deuxième question blanche, c'était... Le 27 avril 1968 est une date importante dans l'histoire de la médecine. Pourquoi? Et alors le candidat jeune, très sympathique, qui répondait à tout comme ça, assez spontanément, il dit « la première grève du cœur ». Alors le présentateur, Nicolas Stouffet, lui dit « oui, mais il faudrait ajouter une précision ». Et alors... Avec le même élan, le candidat répond « La première grève du cœur sans anesthésie !» Putain. C'est con, mais ça fait rire, quoi. Et Nicolas Stouffet a eu du mal à reprendre son sérieux. Et il a dit « Excusez-moi, je me moque pas, mais en effet, c'est pas du tout... » Il dit « Mais... » Ça m'a fait rire, il dit, et je pense que beaucoup de gens doivent rire en écoutant, et je confirme. Alors, je sais pas pourquoi ça fait autant rire, mais c'est une image. Ça fait bêler un peu, quoi.
Oui, salut Mermet, c'est Jacqueline Boury de La Rochelle. Voilà, bah, on est dans la manif. Écoute.
Bonjour, vous appelez comment ?
Moi, je m'appelle Marcel. Aujourd'hui, c'est un jour où faut se défendre. Hein. C'est d'abord une manif. L'austérité, le énième plan d'austérité. Et je crois qu'effectivement, la grève qui a été longtemps conspuée, c'est sans doute pas la seule solution, mais c'est un moyen indéniable qu'on peut partir. C'est quasiment le seul qu'ont la plupart des gens.
Je peux vous demander ce que vous faites comme métier vous-même ?
Oui, moi je suis fonctionnaire aux finances.
Vous travaillez au ministère du budget ?
Oui, c'est ça. Oui.
Donc vous allez participer à la politique d'austérité ?
J'allais dire, il faut bien travailler pour vivre et on n'est pas toujours très cohérent. On pourrait effectivement faire autre chose. Vous croyez que les ouvriers qui fabriquent des bombes sont forcément d'accord avec ça ? Pas forcément, et pourtant faut qu'ils travaillent. Quoi.
Ils ont raison. On a besoin des patrons. 5 euros la boîte de Tesserie, cet argent va dans la caisse de solidarité des travailleurs en lutte.
Victor Hugo, le lycée Victor Hugo se mobilise contre ces misérables.
Voilà pourquoi on n'était pas là hier, chers AMG. Voilà pourquoi on n'était pas là hier. On était là. Merci à tous. Merci pour ces messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, merci Claude pour ce message hilarant. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on rigole autant jusqu'à 16h. Si vous avez déjà rigolé, ben, profitez-en. On va pas tellement s'amuser. Quoique, il y a sans doute quelques sujets de... Peut-être pas d'éclat de rire, mais de rire un peu grinçant dans le reportage d'aujourd'hui, le reportage de Charlotte Perry sur Dexia. Dexia et les produits toxiques. Comment des quantités de collectivités locales se sont fait rouler dans la farine et sont en difficulté aujourd'hui pour avoir emprunté à cette banque Dexia, le fleuron de l'industrie bancaire et qui aujourd'hui se trouve en difficulté, d'autant plus que la banque Dexia, vous le savez, a fait joliment faillite, ce qui nous coûte la bagatelle, c'était dans le journal Le Monde, de 6 milliards d'euros à nous autres les Français, à nos amis belges et puis un petit peu aussi aux luxembourgeois, 6 milliards d'euros. Alors que vont faire, que peuvent faire ces collectivités locales qui se sont fait avoir ? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec Charlotte Perry, Dexia, fleuron de l'industrie bancaire. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse CGSU au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est Alain de Saint-Sauveur. Je t'ai laissé un message pour les fonderies du Poitou la semaine dernière, que tu as diffusé lundi. Merci pour la diffusion. Mais dans l'élan, j'ai commis une erreur. Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone d'une camarade. Donc le numéro de téléphone pour les fonderies du Poitou, le comité de soutien est le 05 49 93 71 65. Je répète, le 05 49 93 71 65. Merci de rectifier l'erreur si tu le peux et nous comptons sur toi. À bientôt.
Bonjour à tous les MG, à Daniel et à son équipe. Je rappelle que ce jeudi 13, à partir de 18h30, on a réunion du repère du Pas-de-Calais chez Tartous et compagnie à Monchy-Breton. Nous parlerons du nucléaire et des manifs qui auront lieu ce samedi 15 pour sortir du nucléaire, en particulier à Dunkerque, et de bien d'autres sujets, bien sûr, autour d'une vraie bière du Pas-de-Calais, puisque son brasseur sera parmi nous pour nous la faire déguster.
Étrange. À la fin de la semaine dernière, sur toutes les chaînes de télévision, de radio, tous les journaux français, on a montré notre chef de l'État en voyage diplomatique en Arménie et en Géorgie. Pourtant, à 6000 km de là, au même moment, ce même vendredi 30 septembre, Nicolas Sarkozy, toujours le même, était accueilli en grande pompe à Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Tous les Brazzavillois et toutes les chaînes de télévision locales pourront en témoigner. Mais en France, pas un mot. Monsieur Sarkozy aurait-il un don d'ubiquité ? Étrange, comme s'il cherchait à cacher une visite auprès de l'un des plus généreux donateurs de ces fameuses mallettes dénoncées par Bourgie. Mais pourquoi ?
C'est un peu le même principe que les subprimes. Nos communes ont emprunté de l'argent à Dexia avec un taux d'intérêt variable, un taux basé sur la parité entre l'euro et le franc suisse. Or, ces dernières années, l'euro a chuté, conséquence, les taux d'intérêt explosent.
C'est des banques qui ont orienté les communes dans des mauvais chemins, qui ont voulu faire de l'argent sur le dos des collectivités locales. Et sur le dos des citoyens, bien entendu.
Dexia, c'est notamment le prêteur historique de nos collectivités locales. Eh bien, toute cette partie prêt aux collectivités pourrait être reprise par la Banque Postale et la Caisse des dépôts. Les pouvoirs publics espèrent ainsi rassurer nos élus locaux, effrayés par la déconfiture de Dexia.
Je crois que jouer avec l'argent du contribuable, c'est ça qui est au-dessus de tout. Qu'un particulier le fasse avec son argent, voilà, il prend des risques avec son argent. Là, c'est prendre des risques avec l'argent du contribuable. C'est ça qui est intolérable. On ne peut pas jouer en bourse avec de l'argent public. Ce n'est pas possible.
Donc quelle est la situation? Vous le savez, la commune a deux emprunts toxiques. Et donc Dexia nous demande pour cette année 2011 25% d'intérêt. Ça représente un supplément d'intérêt pour l'année 2011 de 800 000 euros.
Je pense que par certains côtés, il y a eu une arnaque. Et je crois quand même que ce défaut de conseil à client non initié, cette dissymétrie d'informations entre la banque et son client, est quelque chose qui a amené les élus à se faire rouler.
Et tenez-vous bien, ce prêt s'appelle Tofix. T-O-F-I-X. Voilà. Donc il n'a rien de fixe. Et je crois que Dexia a voulu piéger les gens, rien d'autre, en appelant cet emprunt avec ce nom, Tofix.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, Dexia, fleuron de l'industrie bancaire.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, on est mardi après-midi et je viens d'arriver à Unieux, une petite ville de 8500 habitants, dans la Loire, à 4 km de Firminy, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Étienne. La route pour venir est très jolie, on longe les gorges de la Loire et puis on arrive dans la vallée de l'Ondaine, donc là où se trouve Unieux. Alors là je me trouve sur la place centrale de la commune, face à la mairie, et j'ai rendez-vous avec monsieur Christophe Favergeon qui est le maire de Unieux. Alors Christophe Favergeon c'est un maire communiste, il a été élu en 2008 et quand il a pris la tête de la municipalité, il a eu une sacrée surprise. Il a eu une sacrée surprise parce qu'il a découvert une véritable bombe à retardement cachée dans les comptes de la municipalité. Et cette bombe à retardement, c'est un emprunt de 4 millions d'euros, mais qui a cette particularité, c'est que le taux d'intérêt est fixe pendant quelques années, et puis après, il devient volatile. Et en ce moment, les cours s'envolent. Donc de 4% d'intérêt au départ, le taux est passé à 12%, et là, il a même atteint 25%. Et le problème, c'est que la petite ville d'Unieux est loin d'être un cas isolé. Il y a des milliers de communes qui ont contracté ce type d'emprunt, dit toxique. Il y a 18 régions sur 22, 62 départements sur 100, 290 hôpitaux, 107 organismes HLM, etc., etc. Autant dire que c'est un sale temps pour les collectivités locales. Mais, contrairement à la plupart des édiles qui préfèrent garder le cadavre bien au chaud planqué au fond du placard, Christophe Favergeon a décidé de se battre et d'attaquer la banque Dexia en justice. Et comme les Islandais, Christophe Favergeon et ses administrés ont décidé de ne pas payer.
Ah, vous vous dites, oh, bah, bien sûr, c'est là-bas si j'y suis. Ils sont allés voir un maire communiste quelque part. Où c'est déjà là-bas? Unieux, ou c'est ça? Unieux? Ouais, bon, des problèmes de gestion, des gestions municipales. La municipalité précédente qui avait mal géré l'affaire. Bon, c'est des histoires de... Allez, non, pas du tout, pas du tout. Vous allez voir que... Des municipalités dans cette situation, des collectivités locales dans cette situation, il y en a une quantité formidable en France. On vient de l'évoquer, qui se sont fait rouler dans la farine par cette banque Dexia. Dexia, c'est une histoire absolument formidable. Les contribuables que nous sommes sont déjà passés à la caisse et les contribuables que nous sommes vont repasser à la caisse. La situation de la banque franco-belge Dexia, vous la connaissez, c'est la faillite. Et les gouvernements français et belges apportent en urgence leurs garanties aux dépôts et organisent la disparition de la banque. Dexia avait pourtant brillamment réussi l'épreuve des stress tests en juillet avec son ratio de 11% de fonds propres. Elle semblait être bien capitalisée. Dès lors, quelle valeur accorder aux propos lénifiants du Premier ministre sur la santé des banques françaises? Si une banque de cette importance peut s'effondrer du jour au lendemain, quelle est la situation réelle de nos banques? Voilà peut-être des questions qui seront posées par nos candidats aux primaires. Ce soir même, il y a, comme qui dirait, urgence, car si la première note a été assez salée pour le contribuable, la seconde, le sauvetage acte 2, risque d'être tout aussi salée pour le contribuable, les contribuables que nous sommes. On se dit toujours, oui, bon, ben ça spécule, il y en a qui s'enrichissent, il y a la finance, grand bien leur fasse, après tout, moi dans ma vie, c'est bon, ben je vis modestement, je n'ai rien à voir avec ça. Mais si, on s'efforce toujours, depuis pas mal de temps déjà, de montrer le détriment, comment ces enrichissements, comment ces spéculations, comment ce véritable racket se fait au détriment du bien public. Au détriment de l'intérêt général, au détriment d'un collège, d'une rue, d'un équipement, du bien général, de l'intérêt général. Et là, dans le cas présent, c'est particulièrement violent, particulièrement évident, particulièrement lisible. J'ai pas dit risible, j'ai dit lisible. Et c'est ça qui va nous préoccuper jusqu'à 16h, dans la base J'y suis, avec Charlotte Perry, Dexia Fleuron. De l'industrie bancaire.
Mesdames et messieurs, chers amis du Crédit Mutuel de la Montagne Verte, à l'occasion de l'agrandissement de nos locaux, nous voudrions vous remercier pour votre fidélité et votre sympathie à l'égard de notre caisse mutuelle. Que ce petit souvenir musical vous apporte joie et gaieté.
As-tu besoin d'argent ou d'un service urgent en cas de nécessité? Adresse-toi simplement à ton seul confident qui pourra toujours t'aider. Tu le trouves bien réel dans un cadre modèle avec sa banque rénovée. Et à la Montagne Verte, tu lui restes fidèle au Crédit Mutuel.
Vous avez fait bon voyage ?
Oui.
Asseyez-vous.
Merci.
Christophe Favergeon, et je suis maire d'Unieux, également vice-président de Saint-Étienne Métropole. J'ai 35 ans, je suis professeur de sciences économiques et sociales, et malheureusement détenteur d'empreintes toxiques que nous a léguées l'ancienne municipalité. On essaye de s'en sortir.
Qu'est-ce qu'on appelle un empreinte toxique en fait ?
Un emprunt toxique, c'est un emprunt en fait structuré et qui a un taux d'intérêt qui, à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine date, est fonction des évolutions des marchés financiers. Pour ce qui nous concerne, l'emprunt Dexia est un emprunt de 4 millions d'euros qui avait 2 années avec différé d'amortissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la ville n'a payé que les intérêts jusqu'en 2011, avec un taux très faible, 3,68%. Par contre, à partir de 2011 et jusqu'en 2035, désormais, le taux d'intérêt sera fixé annuellement et fera l'objet d'une formule de calcul qui met en fait aux prises l'euro et le franc suisse. Et donc, plus l'euro baisse par rapport au franc suisse, plus nos taux d'intérêt s'envolent. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons reçu la facture il y a quelques jours, nous devrions nous acquitter pour l'année 2011 d'un montant de 25% de taux d'intérêt. Ça représente un supplément de 800 000 euros par an. 800 000 euros, c'est le coût de fonctionnement des écoles pour une année dans une ville comme la nôtre, ou encore c'est l'équivalent de 20 emplois de personnels communaux, ou bien encore c'est l'équivalent de 30% d'augmentation de la fiscalité locale.
Il faudrait augmenter à peu près les impôts de 30% pour pouvoir s'acquitter des intérêts.
Si nous honorions cette dette, effectivement, il faudrait augmenter de 30% les impôts locaux. Mais nous avons décidé de refuser de payer. Nous avons pris une délibération l'été dernier, à l'unanimité du conseil municipal d'ailleurs, dans laquelle nous fixons le taux d'intérêt à 3,9%. 3,9% c'était le taux d'intérêt fixe qui était pratiqué lorsque cet emprunt a été signé. Et aujourd'hui, nous refusons très clairement de payer.
Donc, vous-même, vous avez fixé le taux d'intérêt ?
Nous avons depuis 2008 tenté toutes les négociations possibles avec Dexia. Nous les avons rencontrées à de multiples reprises, avec comme objectif de sécuriser cet emprunt, c'est-à-dire de passer à un emprunt avec un taux fixe. Malheureusement, nous nous heurtons à un mur et nous n'avons eu pas d'autre choix que, effectivement, de taper du poing sur la table et de fixer le taux d'intérêt qui nous paraissait celui comme étant correct. Ça n'est évidemment pas légal. Cela dit, nous étions pris à la gorge et nous nous heurtions à une banque qui refusait de négocier.
Alors là, je me trouve devant l'amicale laïque du Nieu. On peut voir du vin et des boissons, des rouchons et des souchons. Donc je vais aller voir ce que pensent les gens de l'action en justice du maire contre la banque d'Exia.
Pardon, bonjour.
Vous avez suivi l'action en justice du maire ?
Oui, oui. Ouais. Vous avez lu tout le journal. Hein.
Vous l'avez lu ?
Oui, oui.
Est-ce que vous pensez qu'il a raison de poursuivre la banque en justice ?
Oui. Ah, bah oui, oui, oui.
Vous pensez que oui ?
Je suis un peu le machin, mais jusqu'où qu'ils vont aller comme ça, en augmentant le pourcentage de. Pour rendre l'argent, quoi. C'est le pourcentage qu'ils augmentent chaque fois. Hein.
C'était 4% d'intérêt, puis maintenant c'est 25%. Vous êtes d'accord pour payer ?
Ah ben non, non. C'est nous qu'on va payer avec nos impôts, là.
Là, je suis pas bien au courant de ce truc-là. Moi, je suis qu'un ouvrier, c'est tout. Hein.
Mais, donc, par exemple, si c'était soit attaquer la banque en justice, soit payer plus d'impôts, ou alors il faudrait licencier 20 employés communaux pour pouvoir payer les taux d'intérêt.
Mais non, faut pas renvoyer les employés communaux. Il n'y a déjà pas de travail, alors je suis d'accord pour ne pas payer la banque. Bon. Si c'est la banque, vous savez.
Dexia.
Ah oui, t'es. Moi, je suis à la poste. Il n'y a pas de problème pour le gouvernement.
Et ici, on est où, là ?
On a une UE, c'est l'amicale laïque, là. C'est au stade Paul Buffer, quoi. C'est un groupe sportif, alors. Et il y a une amicale laïque ici, quoi. Voilà.
Et vous venez ici tous les soirs retrouver vos amis ?
Les bistrots, maintenant, il n'y en a plus, c'est tout fermé. Alors, il n'y a que là.
Vous soutenez l'action en justice du maire contre la banque ou
oui, bien
pas
sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est dans l'intérêt de tous les habitants, hein, de toute façon.
Ça vient beaucoup de l'ancien maire.
Qui a contracté le prêt ?
Ah, ben c'est sûr. S'il n'avait pas tant fait des conneries, ben ça ne serait pas arrivé, ça. Parce que nous, on était largement dans le rouge quand ils ont fait une route. Hein. Alors, je crois que ça vient tout de l'ancien maire. Hein.
Voilà, on a trouvé les Islandais de la Loire, ils veulent pas payer. Puis voilà, ils trouvent qu'ils ont pas envie de se faire arnaquer plus que ça. On voit quand même que les spéculateurs et les profiteurs ont de beaux jours encore devant eux. L'euthanasie des rentiers n'est pas pour demain. Les amis que nous rencontrons, les habitants que nous rencontrons là dans cette amicale laïque, ne sont pas vraiment préoccupés des cours de la bourse et des aléas du CAC 40. Par contre, monsieur Marcel Doutre, qui est l'ancien maire, on vient de dire que c'était lui le responsable de cette affaire, eh bien, il nous reçoit bien volontiers. Il a été maire du Nieu pendant 19 années et il a sa version, évidemment, des faits.
Alors voilà, là, on a traversé toute la petite ville du Nieu et on se dirige vers chez Marcel Doutre. Marcel Doutre qui était l'ancien maire du Nieu, l'ancien maire UMP, et c'est lui qui a contracté l'emprunt toxique auprès de Dexia. Voilà, donc là, on arrive devant un portail avec une sonnette, monsieur Doutre. Même une caméra de vidéosurveillance. Bonjour monsieur.
Okay.
Merci.
C'est vous.
Merci monsieur. Il ne fallait pas contracter d'empreintes toxiques, facile à dire. Ça c'est sur Le Progrès, le journal local.
À cette époque-là, pratiquement, Dexia, qui est le prêteur numéro un des collectivités, nous a offert à nous, comme à d'autres collectivités, des emprunts qui paraissaient intéressants parce que bloqués à un taux relativement bas pendant un certain nombre d'années était intéressant. Alors aujourd'hui, il s'avère qu'ils sont toxiques.
Mais alors du coup, est-ce que c'est pas risquer quand même de contracter ce type d'emprunt que vous ne pouvez pas maîtriser, puisque ça dépend du yen, du dollar, du franc suisse.
Je crois que c'est la première fois depuis des dizaines d'années qu'on entend parler d'emprunt toxique. Jusqu'à présent, c'était des taux du marché, mais pratiquement dans une certaine mesure acceptables. Par contre, ces taux d'intérêt, il faut les suivre au jour le jour, évaluer la conjoncture économique et évaluer les cours boursiers. Ce n'est pas donné pratiquement à toutes les collectivités de suivre ce genre de démarche. Pratiquement, il revient aux élus, s'ils sont suffisamment compétents, de faire ce travail. C'est ce que nous avons fait pendant 20 ans. Mais tous les jours, il fallait pratiquement analyser la conjoncture économique et anticiper pratiquement ce qui allait se passer. C'est-à-dire discuter avec les banques, rediscuter les taux d'intérêt, rembourser les emprunts, c'était le travail des élus. Mais je reconnais que toutes les collectivités n'ont pas les aptitudes pour faire ce travail-là.
Donc vous ne regrettez pas d'avoir pris cet emprunt qui quand même s'est révélé...
Je l'ai négocié depuis longtemps. Je ne suis plus aux affaires, ni je peux y être. Mais pratiquement, il y a longtemps que je réglais ce problème-là. Soit en remboursant l'emprunt, soit en le renégociant. Vous savez, on l'a fait précédemment. À partir du moment où quelqu'un ne veut pas négocier, on rembourse l'emprunt et on en prend un autre ailleurs au taux du marché. Ce n'est pas compliqué. On appelle ça un travail de trader. Qu'est-ce que font les banques ? Une municipalité, c'est une entreprise. À partir du moment où elle perd de l'argent, s'il était dans une entreprise, il serait remercié. Le gars qui est à la tête de l'entreprise aurait été remercié depuis longtemps.
Donc pour vous, une municipalité, c'est une entreprise ?
Absolument. Et qui doit réaliser des économies.
Et vous exerciez quelle profession ?
Moi, j'étais chef du service transport du casino, avant de venir en mairie. Grand casino, français international. J'y suis resté 25 ans en casino. C'est un travail énorme de fond. En organisant des plateformes, on diminue les coûts.
C'est bien Jean-Charles Naouri qui gère un casino ?
Oui, c'est ça, oui.
Un de vos modèles, ça serait économique, ça serait M. Naouri ?
Ah, tout à fait, oui. Oui.
Alors voilà, on vient d'arriver à Saint-Maur-des-Fossés, une très jolie petite commune de 75 000 habitants, dans le Val-de-Marne, au sud-est de Paris. Il y a des jolies maisons avec des tours, il y en a certaines qui ont des statues devant. Alors Saint-Maur, c'est une ville qui vote traditionnellement à droite. La municipalité précédente était diverse droite jusqu'en 2008, jusqu'à l'élection de Henri Plagnol, qui est député-maire UMP de Saint-Maur-des-Fossés. Et Saint-Maur, c'est aussi une des villes qui a été les plus touchées par les emprunts toxiques.
UMP, vous avez entendu Henri Plagnol, le maire de Saint-Maur-des-Fossés, il est UMP. Et il n'est pas content, lui non plus. Il est vice-président de l'association intitulée Acteurs publics contre les emprunts toxiques, qui est présidé par Claude Bartolone, qui lui est socialiste, et Plagnol est également vice-président de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est quand même assez intéressant, parce que tout d'un coup, les politiques s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas non plus trop se faire dominer par la finance et par la spéculation. Il y a un moment où on se fait manipuler, il y a une certaine connivence, une certaine complicité, et puis il y a un moment où trop, c'est trop.
Alors, en 2008, nous avons d'abord trouvé un surendettement global, 250 millions d'euros pour une ville d'un peu plus de 75 000 habitants, c'est considérable. Ça en fait une des villes les plus endettées d'Île-de-France par habitant. Mais au-delà du montant que nous connaissions, ce que nous ne savions pas, c'est la nature des emprunts souscrits, qui sont à 85% ce qu'on appelle des emprunts structurés, qui font que du jour au lendemain, en fonction de ce qu'on appelle le fixing, qui se fait en salle des marchés, les taux d'intérêt peuvent passer à 15, 20, 25, voire 30%. Donc que fait le maire de Saint-Maur que je suis ? Eh bien, il négocie pied à pied avec les banques. Et naturellement, si les banques faisaient des propositions inacceptables, j'assignerais les banques en justice. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une double responsabilité. La responsabilité politiques, d'élus qui n'ont pas eu le courage de dire la vérité aux habitants, et qui ont fait croire qu'on pouvait s'endetter à gogo sans jamais payer. Et puis la responsabilité des banques qui ont pris la terrible responsabilité de faire que les comptes d'une ville dépendent de variations monétaires à l'autre bout de la planète. Quand je dis cela aux Saint-Mauriens, ville tranquille et résidentielle, a priori sans problème, ils en tombent à la renverse. Je voudrais d'ailleurs ajouter que non content de fourguer ces emprunts soi-disant miracles, parce que c'est comme ça que c'était présenté, hein, mais en plus de cela, au passage, les banques exigeaient un allongement considérable de la durée des emprunts. Ce qui fait que j'ai des emprunts dont la durée moyenne est de 24 ans, les emprunts les plus toxiques courant sur 30 ans, voire dans certains cas 40 ans. Ce qui nous emmène quand même gentiment jusqu'en 2050. Hélas, le scandale ne fait que commencer. Il y a également, je voudrais juste ajouter, qu'il y a également le problème de l'absence totale dans cette affaire de contrôle de l'État. Les préfectures n'étaient pas outillées, les trésoriers payeurs généraux qui ont en charge le contrôle des comptes publics des collectivités locales n'ont rien vu. Donc il y a eu un dysfonctionnement radical du côté des alertes, ce qui veut bien dire qu'il y a eu une période d'aveuglement avec d'un côté des outils financiers ultra sophistiqués et de l'autre des services publics désarmés parce qu'ils n'étant pas capables de maîtriser ces outils. Et au fond, c'est ça la grande leçon. N'utilisons pas des outils quand on n'est pas capable de les comprendre et d'en mesurer la portée et les dangers.
Donc là, pour l'instant, vous êtes en phase de négociation avec les banques, c'est ça? Et vous irez en justice si la phase de négociation ne marche pas?
Dans le cas de Saint-Maur, c'est très clair depuis le début. Je me suis fait autoriser par le conseil municipal, à l'unanimité d'ailleurs, je dois dire, y compris ceux de mon opposition qui avaient signé ces foutus emprunts, je me suis fait autoriser à assigner en justice les banques dès lors que leur proposition serait inacceptable. Et si c'est le cas, je n'hésiterai pas.
Il y a des journées très longues où ça va vraiment mal. Il y a juste des comptes qui tombent dans ta boîte à mal. T'essayes de discuter avec la dame du téléphone. Vous avez deux jours pour payer. C'est pas même le fun.
On est dans la merde. On est dans la merde.
Pense un peu, tu te dis ça se peut pas. Toi qui fais toujours de ton mieux, tu comprends pas que ça marche pas. La source de tes problèmes doit être dans la société. Je te gage que c'est le système qui est pas fait pour toi.
On est dans la merde. On est dans la merde.
Ils se sont fait rouler dans la farine, mais on peut comprendre ces élus qui se disent que ce serait quand même pas mal là de faire une piscine, une école, un rond-point, des belles choses comme ça pour mes administrés. Peut-être que je serais peut-être élu, on resterait peut-être s'ils étaient contents. Alors on va emprunter. Alors on fait venir le gars de, on faisait venir le gars de Dexia. Et puis vous savez, j'ai des choses formidables avec des tout petits taux d'intérêt de rien du tout. Oh non, vous inquiétez pas, c'est stable. Enfin, on n'a jamais eu de problème, etc. Et puis alors, pendant 2, 3, 4 ans, effectivement, les taux sont faibles, sont élevés. Et puis, alors là, soudain, ça monte, 10, 15, 20, 25%. C'est arrivé à des quantités de municipalités. Et aujourd'hui, eh bien, ces municipalités, ces élus, se rebellent.
On rentre dans la salle des fêtes qui est bien bien pleine. Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là?
Bah, vous dire d'abord bah, écoutez, c'est une manifestation, c'est un petit repas que le maire nous offre aux employés municipaux.
Vous faites quoi ?
Moi, je travaille au service général.
À l'occasion de la rentrée, ça fait déjà maintenant plusieurs semaines que la rentrée est effective. Donc, quelle est la situation ? Vous le savez, la commune a deux emprunts toxiques. Et donc, Dexia nous demande pour cette année 2011 25% d'intérêt. Ça représente un supplément d'intérêt pour l'année 2011 de 800 000 euros. 800 000 euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 20 emplois de personnels communaux sur les 115 que nous avons au niveau équivalent temps plein. C'est encore l'équivalent de 30% de fiscalité en plus. Bien évidemment, nous n'irons pas payer cette facture-là. Nous refusons de payer. Vous savez que nous avons engagé des poursuites juridiques contre Dexia. Nous avons porté plainte contre Dexia. Nous avons créé, avec un certain nombre de collectivités qui sont dans notre situation, une association qui s'appelle Acteurs publics contre les emprunts toxiques et qui a déjà obtenu une première victoire, celle de la création d'une commission parlementaire. Et cet après-midi, juste après notre moment convivial, nous recevrons en mairie d'Unieux le directeur France de Dexia et puis la conseillère spéciale auprès du président de Dexia. C'est la première fois qu'eux font cette démarche de nous rencontrer. Chaque fois qu'on a eu des rencontres avec Dexia, c'était la commune qui les avait sollicités. Et nous avions jusque-là toujours des intervenants locaux. Là, cette fois-ci, c'est vraiment les dirigeants nationaux. Je ne serai pas plus long sur cette affaire-là, mais vraiment, il me semble impératif que vous soyez informés le plus souvent possible de la situation, parce que c'est vraiment une épée de Damoclès que nous avons sur nos têtes. Cet emprunt, je vous le rappelle, court jusqu'en 2035. Le taux d'intérêt sera calculé chaque année, donc cette année c'est 25%. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine ? On n'en sait évidemment rien du tout. Donc voilà pour ce qui est un peu ce tour d'horizon de la rentrée. Et puis je vous invite bien sûr à lever ensemble le verre d'amitié. Merci à vous tous.
C'est bon alors ? Il y a plein de petites choses. Alors vous en avez pensé quoi de... du discours du maire par rapport aux emprunts toxiques?
Il a tout dit. Il a tout dit. Hein. De toute façon, s'il tient ce discours depuis 2 ans, c'est que derrière, il sait qu'il a une force, une majorité qu'il soutient sur ces questions financières. Il porte une voix forte de la majorité municipale de gauche. Hein. J'aime bien dire de gauche parce que j'étais sur une liste qui s'est opposée au maire, hein, puisque c'était une liste de communistes Front de Gauche. Je suis socialiste, j'en suis très fier. Et maintenant, je travaille dans l'intérêt général des unitaires. Moi, je crois qu'il ne faut pas remettre en cause les anciens élus. C'est fait, il y a eu une erreur de fait. C'est surtout remettre en cause les banques qui sont responsables d'avoir trahi la confiance des élus de terrain. C'est les banques qui ont orienté les communes dans des mauvais chemins, qui ont voulu faire de l'argent sur le dos des collectivités locales. Et sur le dos des citoyens, bien entendu. Je crois qu'il y a quand même un objectif, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que les collectivités locales aient leur propre financement, leur propre banque de financement d'aide à l'investissement. Je crois que les banques peuvent jouer avec leur argent et les collectivités locales, elles sont là pour rendre un service à la population, faire des investissements, mais non pas jouer avec l'argent du contribuable. Mais bien faire la différence entre ces deux parties. Ça va être, je pense que sur la campagne de 2012, il y aura une discussion. Il faudra que tous les candidats se positionnent par rapport à ces problèmes.
Vous vous appelez comment, pardon ?
Fabrice Corda. Alors, je suis adjoint au sport et aux associations de la commune d'Unieux, qui représente quand même beaucoup, puisqu'on a une centaine d'associations sur la commune et plus de 4600 licenciés sur notre commune.
Une ville de 8500 habitants.
8600 habitants, c'est 4600 licenciés.
Escroquerie en bande organisée et tromperie, c'est l'objet de la plainte qu'a déposée l'avocat de la ville de Rosny-sur-Seine contre la banque Dexia Crédit Local.
Itélé, 1er octobre 2011.
La mairie accuse l'établissement financier de l'avoir convaincu d'abandonner entre 2000 et 2006 les emprunts à taux fixe pour passer aux emprunts à taux variable plus risqués.
On a volontairement trompé, on a volontairement dissimulé. On a mis des clauses qui étaient particulièrement complexes.
Plus de 5500 collectivités locales auraient contracté auprès de Dexia de ces crédits à taux variable qualifiés de toxiques, un chiffre démenti par la banque. De son côté, la ville de Rosny-sur-Seine estime son préjudice à 400 000 euros sur ses emprunts.
Là, je me trouve à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et je me dirige vers l'hôtel du département, où j'ai rendez-vous avec Claude Bartonon, qui est président du conseil général de Seine-Saint-Denis. Alors la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus touchés par les emprunts toxiques, puisque quand Claude Partenon a pris la tête du département en 2008, il s'est rendu compte que 97% de la dette de la Seine-Saint-Denis était en fait constituée d'emprunts toxiques. Et du coup, Claude Partenon a pris la tête de la fronde des élus contre les banques. Il a créé avec une dizaine d'autres élus l'association Acteurs Publics contre les emprunts toxiques. Et il a assigné Dexia et d'autres banques en justice. Donc voilà, on est arrivé.
Voilà, vous avez compris, 5500 collectivités locales qui auraient été volontairement trompées. On parle d'une escroquerie en bande organisé. C'est un hold-up assez formidable, un racket assez formidable, longtemps tu, et qui éclate évidemment ces jours-ci avec la faillite de la banque Dexia, même si ses élus se battent déjà depuis un certain temps. Donc dans le 9-3, le 93, rencontre avec Claude Partenon.
L'année dernière, en 2010, j'ai dû prévoir pour le département de la Seine-Saint-Denis 1,5 million supplémentaires comme intérêt à payer. C'est l'équivalent d'une crèche. En 2011, il faut que je prévoie 15 millions pour les mêmes emprunts. Et les prévisions du marché m'amènent déjà à envisager 30 millions pour l'année prochaine. Bon, 1,5 million, c'est une crèche. 15 millions, c'est 10 crèches. 30 millions, c'est un collège. Quand vous savez que le département doit construire d'une manière inéluctable l'équivalent de 9 collèges 600 compte tenu de la population que nous devons accueillir comme collégiens, je préfère avoir cet argent pour améliorer la situation des enfants du département, des adolescents du département, que de donner ces sommes en intérêt supplémentaire au monde bancaire. Vous voyez, c'est cela qui est insupportable, parce que pour une collectivité locale, pourquoi les banques s'intéressaient beaucoup au marché des collectivités locales? Parce que on ne peut pas faire faillite. Quelles sont les décisions que vous devez prendre si vous êtes dans une situation difficile, si vous devez donner ces 30 millions en fonction des décisions prises à Londres, Washington, Tokyo? C'est où vous devez augmenter massivement les impôts locaux, ou vous devez réduire les investissements, c'est les collèges en moins que nous venons d'évoquer, les routes, tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours sur un département, ou réduire les services publics, c'est-à-dire supprimer des emplois. Et là, vous voyez que ce genre de décision soit dictée par des considérations qui relèvent du capitalisme financier au niveau international, franchement, ce n'est pas admissible, même théoriquement, même pour ceux qui veulent de la liberté pour les collectivités locales, que l'on soit aussi dépendant de décisions de ce genre. C'est pas pensable qu'il puisse y avoir des risques pris par une collectivité locale qui les amène, en gros, à spéculer. Dexia, c'était le partenaire de confiance des collectivités locales. Eh bien, à un moment donné, cette banque et toutes les autres qui ont suivi on préférait faire prendre des risques et chaque fois plus importants aux collectivités locales pour améliorer le rendement de l'action, des actions et le salaire des dirigeants de ces entreprises plutôt que d'être le partenaire de confiance pour les collectivités locales. Et puis après, s'il n'y a pas de possibilité de dialogue et de négociation, il y aura procès. Il y aura procès.
On peut tout acheter, un frigo ou une île. Si t'as pas la monnaie, tu empruntes à la banque. On va pas se priver si quelque chose nous manque. La télévision et son magnétoscope.
À crédit, à crédit.
Le réfrigérateur, la linge, le caméscope.
À crédit, à crédit.
Le four à micro-ondes.
Le séchoir électronique.
Le cuitoir à vapeur.
Et le shaker électrique.
À crédit,
à crédit.
C'est joli la vie à crédit, c'est charmant la vie à ton père, maman. C'est joli la vie à crédit, c'est charmant.
Monsieur Favargeon, qu'est-ce qui va se passer là ?
Eh bien donc, on va rencontrer le directeur France de Dexia et puis la conseillère du président de Dexia, donc, qui nous ont sollicité il y a quelques semaines pour avoir un rendez-vous. C'est la première fois que ça se passe ainsi. Depuis 2008, c'est nous qui les contactons à chaque fois pour essayer de renégocier cet emprunt. Donc on va étudier et on va regarder précisément les propositions éventuelles de Dexia.
D'accord, donc vous, vos positions ?
C'est de pouvoir sécuriser la dette, c'est-à-dire on doit 4 millions d'euros. Par contre, on souhaite des conditions de financement de cet emprunt qui soient normales, c'est-à-dire qui sauvegardent les intérêts de la commune, ceux des habitants, c'est-à-dire avec un taux fixe. Le préalable pour nous, c'est donc de sortir de l'indexation du taux d'intérêt sur les marchés financiers.
Il est 15h30, ça va bientôt faire trois quarts d'heure que Monsieur Guittard, donc directeur de Dexia France, et Madame Courtois, conseillère du président de Dexia France, sont entrés dans le bureau de Monsieur Favargeon. Et on entend les voix qui s'élèvent dans le bureau. Ça y est, la porte est ouverte. Bonjour, Monsieur Guittard, vous pouvez me dire si vous avez trouvé un accord ? Les gens ont le droit de savoir quand même, non ? À qui il faut s'adresser, excusez-moi, alors ? Personne ne répond ? C'est assez méprisant pour les gens, quand même. On va retourner voir Monsieur Favergeon.
Vous voulez vous parler ?
Non, ils n'ont pas du tout voulu me parler.
Votre présence a été mal ressentie. Ils ont failli faire un clash.
Ah bon, c'est-à-dire ?
Bah, vous avez pas vu quand on les a mis à part parce qu'ils voulaient pas vous voir et bon, ça s'est bien passé. Ils sont restés.
Alors comment ça s'est passé ?
Ben on est sur une nouvelle phase puisque pour la première fois, Dexia indique qu'ils sont prêts à prendre en charge une partie de la dégradation budgétaire de cet emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont prêts à ce qu'on ne paye pas ces 24%. Cette position de Dexia veut dire que ben, ils assument au moins une partie des risques qui ont été pris au travers de ces emprunts toxiques. Reste à voir maintenant quelles seront la nature des propositions. Nous, de toute façon, on a une boussole, c'est celle de l'intérêt des habitants de la commune, celle de l'intérêt de la municipalité. Donc c'est notre boussole, c'est de l'ordre de 4%. C'est ce qui est raisonnable pour nous, le taux fixe qui était pratiqué à l'époque.
Donc, et en général, là, comment s'est passé l'entretien ? Ils étaient plutôt...
Bah écoutez, je crois que Dexia se déplace à Unieux. Ils nous ont contactés pour prendre rendez-vous. On a le contenu de l'actualité, les gros titres de la presse. Bon, évidemment, ils étaient plutôt dans une position de discuter et de faire des efforts. Donc ça change radicalement, effectivement, leur position initiale, qui n'était pas du tout celle-là, puisqu'ils nous demandaient très clairement de payer plus de 7 millions d'indemnités, s'ajoutant aux 4 millions de prêts que nous devions. Donc on a effectivement des interlocuteurs qui ne sont pas du tout sur la même position que ce qu'on a pu avoir jusque-là.
Alors, une évolution très nette ce jour-là, Unieux,
entre Dexia et la municipalité, et le maire, Christophe Favergeon, mais ça, c'était il y a quelques jours. Et comme vous le savez, la situation a évolué, la banque Dexia a fait faillite, on ne sait plus tellement comment la recycler, qu'est-ce qu'on va faire de ces dettes énormes. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que ça fait pour les collectivités locales qui sont engagées dans ces affaires. 5500, je le rappelle, collectivités locales qui sont à peu près dans la même situation que cette municipalité du Nieu. Alors, on a joint, il y a quelques heures, ce matin, Christophe Favergeon au téléphone.
Allô?
Alors, Monsieur Favergeon, depuis qu'on s'est rencontré à Unieu, il s'est passé pas mal de choses. Tout d'abord, je crois que vous avez revu Dexia. Est-ce qu'ils vous ont fait des propositions, alors?
Pour l'année 2011, ils sont prêts à prendre l'essentiel du surcoût à leur charge. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les Unieutaires. Le problème reste entier pour la suite. Donc, c'est encore en discussion. Je peux pas encore vous dire le montant précis, mais ils s'aligneraient sur nos conditions autour de 4%.
Et alors, qu'est-ce que change la faillite de Dexia pour vous ?
Ce qui semble en tout cas s'avancer, c'est une prise en charge par des établissements publics, hein, la Caisse des dépôts et consignations et la Poste, la partie activité collectivité territoriale de la banque. Concrètement, si ce scénario devait se confirmer, ça voudrait dire que l'État va assumer la majeure partie du déficit et des risques qui ont été pris par Dexia. Ce qui n'est pas sans poser problème, puisque l'État, c'est le contribuable. Et aujourd'hui, il ne semble qu'il n'y ait aucune condition particulière à cette prise en charge. Nous, ce qu'on demande, c'est que cette prise en charge, si elle a lieu, soit financée par le système bancaire en général, qui a pris ses risques, et puis que ça se fasse avec une contrepartie, celle de renégocier avec les collectivités qui ont ces emprunts toxiques, de manière à leur fournir des taux d'intérêt acceptables, des taux d'intérêt fixes. La Caisse des dépôts, c'est la branche financière de l'État, en quelque sorte. La Banque Postale, c'est aussi l'État qui en est principal actionnaire. Donc un renflouement de Dexia par intermédiaire de ces établissements, ça veut dire une intervention de l'État et donc du contribuable. Ça serait pas juste que ça se fasse une nouvelle fois sans condition. Dexia avait déjà été renfloué en 2008 à hauteur de 6 milliards d'euros, sans aucune condition. Et on voit ce qu'il en a été par la suite, puisque Dexia s'est retrouvé à nouveau maintenant en situation de quasi-faillite. Il faut arrêter de renflouer sans condition, sans améliorer, sans rendre plus transparent la question du système financier et des banques en France.
Bah écoutez, je vous remercie.
Merci à vous.
Au revoir.
Voilà, merci à toutes et à tous. Dexia, fleuron de l'industrie bancaire. C'était un reportage de Charlotte Perry. À suivre, bien sûr, vous avez compris. Merci à Christophe Favergeon, à Marcel Doutre, à Henri Plagnol, Claude Bartolone et Michel Klupfer. Demain, nous commençons une série d'émissions sur le 17 octobre 1961. Vous le savez, lundi, c'est le 50e anniversaire de cette journée si longtemps portée et disparue. Donc on reviendra sur nos archives à plusieurs reprises. Et dès 1991, on avait fait une série sur ce sujet. Donc on y reviendra demain et après-demain dans Là-bas si j'y suis. Et puis, vous avez sans doute vu cette histoire autour d'un reportage sur France 2, Un œil sur la planète, avec une réaction indignée du CRIF et d'un certain nombre de personnalités sur un sujet qui traitait du lobby pro-israélien, notamment pro-israélien aux États-Unis. Alors je voudrais rappeler qu'on a consacré, là-bas si j'y suis, avait consacré une série sur ce sujet en février 2009, Vous pouvez la retrouver sur notre site là-bas.org, là-bas.org. Le lobby pro-israélien voyage dans un tabou. Et c'était autour du livre de John Mersheimer et Stephen Walt, le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. J'ai oublié aussi de remercier tous ceux qu'on a rencontrés lundi soir au Cabaret Sauvage, justement sur ce lancement des réunions et des manifestations à l'occasion du 50e anniversaire du 17 octobre 1961. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faire des commentaires, écrire des commentaires. À la technique, aujourd'hui, Rémi Quincé et Basile Bocquer, Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grigory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Quand on achète un logement, on est toujours un peu perdu. Heureusement, la certification NF Logement vous aide à vous y retrouver. Choisir un logement certifié, c'est l'assurance d'un logement de qualité, confortable et performant. Et en plus, avec le label BBC, bâtiment basse consommation, vous êtes sûr de réaliser des économies d'énergie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur qualitel.org.
C'était un message de Qualitel, l'association pour la qualité du logement.
Maman, dans ton boulot, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin des employés ?
Pause obligatoire toutes les heures, histoire de faire quelques exercices de gym des yeux. Droite, gauche, droite...
Non.
Non, je rigole. Mais avec le contrat Malakoff-Médéric, on s'occupe vraiment de la santé des salariés. Par exemple, on bénéficie de leur réseau d'opticiens agréés.
Malakoff-Médéric prend soin de vos salariés. Avec notre réseau d'opticiens agréés, nous assurons ce qu'il y a de mieux, tout en réduisant leur reste à charge. C'est ça, prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff-Médéric, présent pour votre avenir.
Hé, le loup, t'en as pas marre de te faire avoir par trois petits cochons? Alors mange trois produits laitiers par jour, tu seras plus fort. Bah oui, par exemple, tu peux prendre un verre de lait le matin, du fromage à midi, et un yaourt le soir. Tu vois, c'est facile.
Paf, paf, paf. Et trois produits laitiers pour le loup.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne, de la France et du CNIEL.
France Inter, partenaire de la Fiesta des Suds, du 14 au 30 octobre à Marseille. Pour cette 20e édition, une journée, 7 soirées, 45 concerts. Avec Amadou et Mariam, Paco de Lucia, Kid Creole and the Coconuts, Catherine Ringer, Raphaël Saadic, Another Honest John Chop Up avec Damon Albarn, Tony Allen et bien d'autres. Retrouvez le samedi 15 octobre l'Afrique Enchantée en public des Docks des Suds à partir de 18h et participez au bal de l'Afrique Enchantée dès 23h. Renseignements sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Pas de bonus ou de dividendes versés sans recapitalisation solide. C'est le plan de José Manuel Barroso pour les banques. Le président de la Commission européenne est en train de le présenter à Bruxelles. Il appelle les Européens à les recapitaliser urgemment et pour ce faire, il réclame une approche coordonnée. Si les gouvernements ne sont pas en mesure de soutenir leurs banques, dit-il, des prêts du Fonds européen de secours financier seront possibles. Par ailleurs, on vient de l'apprendre, la Slovaquie est parvenue à un accord sur l'élargissement du Fonds de secours financier de la zone euro. Les parlementaires l'avaient pourtant rejeté hier soir. François Hollande salue cet après-midi l'élégance et la responsabilité de Ségolène Royal. La présidente de Poitou-Charentes arrive en quatrième position du premier tour de la primaire socialiste, a annoncé aujourd'hui son ralliement à son ex-compagnon au nom notamment de son score réalisé au premier tour. Il est légitime d'amplifier cette avance, dit-elle. Martine Aubry, via ses soutiens, d'y prendre acte de ce choix personnel. Un choix qu'elle respecte, a déclaré Anne Hidalgo, élue socialiste à la mairie de Paris. Ce soir, François Hollande et Martine Aubry se retrouveront donc sur France 2 et France Inter pour un ultime débat. Rendez-vous à 20h35. Le coup de sang des députés socialistes de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ils ont quitté aujourd'hui l'audition de Xavier Bertrand. Le ministre de la Santé était interrogé sur le projet de budget de la Sécu. Et visiblement, les députés PS n'ont pas apprécié d'être accusés de schizophrénie. Xavier Bertrand leur reproche la différence de discours des élus locaux et celui qu'ils tiennent au niveau national. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé cet après-midi Gérard Filoche. L'ancien inspecteur du travail était poursuivi pour entrave au fonctionnement d'un comité d'établissement dans le cadre de ses fonctions. Le ton continue de monter entre l'Iran et les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères iranien met en garde aujourd'hui Washington contre toute tentative de confrontation. La Maison-Blanche a annoncé hier soir l'inculpation de deux Iraniens soupçonnés d'avoir voulu tuer l'ambassadeur saoudien à Washington. De la limaille de fer dans du lait en poudre pour bébé, Intermarché a décidé aujourd'hui de retirer de tous ses rayons les boîtes de la marque Gigose au nom du principe de précaution. L'affaire est partie d'une réclamation faite par une famille dans le Tarn-et-Garonne, Mochaya.
La semaine dernière, un couple achète du lait premier âge Gigos classique, non épaissi, date d'expiration décembre 2012. Selon le quotidien régional La Dépêche du Midi, après avoir fait quelques biberons, le papa découvre dans la boîte des petites particules brillantes, comme du fer, avec un aspect métallique. Il pose alors un aimant au-dessus du pot et les particules viennent se coller. Aussitôt, les parents alertent le médecin. L'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées est également prévenue et le lait en poudre est envoyé à Nestlé. Pour l'instant, toujours selon la Dépêche du Midi, qui cite le service de communication de Nestlé, les investigations ont commencé. En fait, ce seraient des particules issues du matériau d'emballage qui se seraient retrouvées dans le lait en poudre. Cela serait sans danger pour la santé. Le bébé a été ausculté, il n'a rien. Au nom du principe de précaution, Intermarché a donc décidé de retirer tous les lots de lait en poudre Gigose.
Mochaya, 16h04 sur Inter.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans la Sarthe aujourd'hui à Lavardin à 18h30 et dans l'Eure-et-Loire demain jeudi à Auneau. Rendez-vous aussi à 18h30. À très bientôt.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non. Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je n'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film.
Ça
il nous renvoie
ça
une
m'avait
image.
Échappé.
Théâtre.
Laissez-moi quoi. Terminer. Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence.
C'est à vous, Frédéric Lodéan, pour Carrefour de Lodéan.
Bonjour Laetitia. Carrefour de Lodéan. Bonjour à tous. Un joli disque nous accompagne cette semaine. Manuel de Falla, interprété par Javier Perianès, avec le BBC Symphony Orchestra, dirigé par José Pons. C'est un disque Harmonia Mundi, Les Nuits dans les Jardins d'Espagne et autres pièces pour le piano. Alors on sait que Manuel de Falla a imaginé ces Nuits dans les Jardins d'Espagne autour de 1909. Il était à Paris. Il n'était jamais allé à Grenade, mais enfin, il avait été très intéressé par une exposition des planches avec reproduction de peinture de jardin du peintre catalan Rusignol. Et Rusignol a évoqué Grenade 17 fois. Et ça a été une des principales sources d'inspiration de Manuel de Falla. La mélancolique beauté, la lumière crépusculaire, le mystère qui émane de quelques-unes de ses peintures de jardin ont certainement contribué à la création de l'atmosphère sonore des nuits. C'est un peu comme les tableaux d'une exposition de Moussorski. C'est après une exposition qui avait marqué vraiment le cœur de l'auteur que Moussorski a composé ce chef-d'œuvre. Alors ensuite, un livre a marqué aussi, après la peinture, Manuel de Falla, c'est Grenade, guide émotionnel de Maria Martinez Sierra. Et l'écrivain était témoin, a été vraiment là quand Manuel de Falla a ouvert ce livre. Et je me souviens que le futur auteur de L'amour sorcier traversait une de ces périodes de stérilité qu'on peut comparer comme un tourment aux périodes d'aridité que subissent les mystiques. Et puis alors, voilà, cette lecture, plus les peintures. Tout ça a fait que Manuel de Falla a produit ce chef-d'œuvre. Voici « Dans les jardins de la Sierra de Grenade, tiré des nuits dans le jardin d'Espagne » de Manuel de Falla.